écoutez Radio France Internationale, 20h30 à Paris et Khartoum, 18h30 en temps universel et à Dakar.
Afrique Soir sur RFI.
Allez, l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. Bonsoir Paul Lancin-Spinelli.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Avec à la une, les Émirats Arabes Unis désignés une nouvelle fois par le Soudan comme agresseur et soutien des FSR. Les paramilitaires ont frappé pour le troisième jour consécutif plusieurs infrastructures stratégiques de Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement dans l'est du pays. Khartoum a annoncé ce mardi en réaction la rupture de ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi. Malgré les menaces de poursuites judiciaires en RDC, l'ex-président congolais, toujours en exil, Joseph Kabila, enchaîne les rendez-vous avec des ténors politiques du continent. Le Rwanda et les États-Unis discutent d'un possible accord pour l'envoi de migrants expulsés par Washington sur le sol rwandais. Ça sera le dossier de cette édition. Et puis, c'est ce diamant que les fans de foot veulent de nouveau voir briller ce soir en demi-finale. Retour de Ligue des Champions, Lamine Yamal, l'ailier du FC Barcelone de 17 ans, affronte avec ses coéquipiers l'Inter Milan ce soir, coup d'envoi dans 30 minutes. Enfin, ne manquez pas dans la deuxième partie d'Afrique Soir, l'Afro Club de DJ Facemaker. Des images de Port-Soudan en flammes montrées pour dénoncer une agression émiratie. Cette formule, c'est celle employée ce soir lors d'un discours télévisé par le général Al-Burhan, chef de l'armée soudanaise. Discours prononcé dans la capitale provisoire du Soudan après une nouvelle attaque des FSR ce mardi. Un peu plus tôt, le Conseil de sécurité et de défense soudanais avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Abu Dhabi dans un communiqué lu à la télévision nationale. Écoutez.
Lorsque les Émirats Arabes Unis ont constaté la défaite de leurs vassaux, les FSR, vaincus par nos forces armées, ils ont intensifié leur soutien et ont fourni davantage d'armes stratégiques à la rébellion. Ils ont continué à cibler des installations et des services vitaux dans le pays. Dernière en date, les attaques contre les dépôts de pétrole et de gaz du port et de l'aéroport de Port-Soudan, ainsi que des centrales électriques et des hôtels, ce qui a mis en danger la vie et les biens de millions de civils. Cela menace la sécurité régionale et internationale, et en particulier la sécurité de la mer Rouge. À la suite de cette agression continue, le Conseil de sécurité et de défense a décidé de déclarer les Émirats Arabes Unis comme un État agresseur, de rompre les relations diplomatiques avec cet État et de fermer l'ambassade et le consulat général du Soudan. Le Soudan se réserve le droit de répondre à l'agression par tous les moyens nécessaires pour défendre la souveraineté du pays.
Cette annonce officielle intervient alors que Port-Soudan a donc été frappé pour le troisième jour consécutif par les forces de soutien rapide. Jusqu'à ce week-end, la ville de l'est du pays, contrôlée par l'armée soudanaise, n'avait pas encore connu le fracas des bombes. Récit de l'assaut de ce mardi avec Alexandra Branjon.
Vers 4-5 heures ce matin, plusieurs installations stratégiques de Port-Soudan ont été ciblées par des drones. L'aéroport à une dizaine de kilomètres de Port-Soudan, dernier aéroport international encore opérationnel dans le pays. Une base militaire à proximité, un dépôt de carburant près du port qui a aussitôt pris feu et une centrale électrique qui a privé de courant toute la ville de Port-Soudan. Pour l'instant, les autorités n'ont pas rapporté de victimes. Ce sont principalement des infrastructures qui ont été visées ces trois derniers jours. D'ailleurs, tous les vols civils ont été suspendus à l'aéroport et les Nations Unies qui opèrent depuis Port-Soudan ont temporairement interrompu leurs activités. Pour les différents observateurs, ces frappes de drones attribuées aux paramilitaires constituent un développement inquiétant. Elles révèlent d'une part la capacité des forces de soutien rapide à frapper loin de leur position et étendre la guerre dans des zones où ils ne sont pas présents, et traduisent également une nouvelle stratégie des FSR, détruire les infrastructures encore existantes et notamment les voies d'entrée et de sortie du pays pour les marchandises et l'aide humanitaire.
Alexandra Branjon, les partis politiques maliens veulent remettre le couvert. Après s'être réunis hier, les chefs des formations politiques ont appelé à un nouveau rassemblement vendredi après-midi à Bamako. Une façon de maintenir donc la pression sur la junte après un week-end de mobilisation dans la capitale pour réclamer des élections, la fin de la transition et pour que les militaires renoncent à supprimer ces partis. Le rendez-vous de l'opposition de samedi avait été annulé finalement après l'interdiction des forces de l'ordre, mais plusieurs centaines de Maliens s'étaient quand même regroupés à Bamako. L'une des lignes directrices de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali fait partie, c'est la souveraineté sur les ressources naturelles. Autre membre de l'AES, le Niger a fait de ce sujet une priorité depuis le coup d'État de juillet 2023. Une politique qui a considérablement tendu les relations avec le géant français de l'uranium, Orano. Et le bras de fer a d'ailleurs pris une nouvelle tournure hier. Un responsable de l'entreprise a été embarqué au terme d'une longue perquisition des locaux du groupe et de ses filiales à Niamey, Magali Lagrange.
Les locaux à Niamey d'Orano Mining et des filiales Somaïr et Cominac bouclés ce matin, mis sous scellé, inaccessibles au personnel. Leur perquisition par la DGDSE hier a duré près de 6 heures. Les hommes de la sécurité extérieure ont minutieusement fouillé les bureaux. Ils sont repartis avec le directeur d'Orano au Niger, Ibrahim Kourmo, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables. Joint par RFI, Orano affirme disposer d'informations très limitées sur la situation au Niger dans le contexte actuel et ne pas avoir pu joindre son représentant sur place. Les relations entre Niamey et le groupe français sont tendues depuis le coup d'État de juillet 2023. Le dialogue entre les deux partenaires est rompu. Le CNSP met en avant sa souveraineté sur les ressources nationales. Toutes les opérations d'Orano sont actuellement suspendues dans le nord du Niger où plus de 1000 tonnes d'uranium sont stockées faute de pouvoir être exportées via le Bénin. Le groupe français a perdu le contrôle opérationnel de la Somaïr. Les travaux de réaménagement du site de Cominac sont interrompus et le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été retiré. Le minier français a engagé 2 procédures internationales d'arbitrage.
Magali Lagrange, un agenda bien rempli pour un Joseph Kabila surveillé de près par la justice de RDC. La semaine dernière, le pouvoir a en effet saisi le Sénat pour lui réclamer de lever l'immunité parlementaire de l'ancien président toujours en exil. Félix Tshisekedi et son entourage l'accusent de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de massacres de civils et de collusion avec l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Mais ce n'est pas pour autant que l'ex-dirigeant congolais se terre chez lui. Au contraire, il multiplie les rencontres sur la scène régionale, Patient Ligodi.
Depuis près d'un an, Joseph Kabila mène une intense activité diplomatique dans la sous-région. Il a rencontré plusieurs chefs d'État en fonction, mais aussi d'anciens présidents africain. À d'autres personnalités, il a adressé des lettres dans lesquelles il donne sa lecture de la situation politique en RDC et de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Cette année, il s'est notamment rendu à Nairobi où il a rencontré le président kényan William Ruto. Et plus récemment, il y a 4 jours, il s'est entretenu avec l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'un des co-facilitateurs désignés par la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC, entretient aussi des relations qualifiées de cordiales avec Félix Tshisekedi. Sur le plan national, Joseph Kabila s'est également rapproché des figures de l'opposition. Pour la première fois, il a signé une déclaration commune avec Martin Fayulu. Ensemble, ils plaident pour un dialogue national afin de traiter, je cite, les causes profondes de la crise que traverse le pays.
Patient Ligodi, Kinshasa qui conserve un contact très fragile avec le Rwanda, soutien du M23 dans l'est de la RDC, et ce via le médiateur qatarien et les États-Unis, Kigali, qui en parallèle traite d'un tout autre sujet avec Washington. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a en effet confirmé hier qu'un accord migratoire préliminaire était en discussion. Les autorités américaines pourraient envoyer des migrants sur le sol rwandais, Willy Diallo.
L'expulsion de personnes en situation irrégulière est une priorité pour Donald Trump. Début mars, le président américain a invoqué une loi de 1798 pour justifier l'expulsion vers le Salvador de migrants accusés sans preuve d'appartenir à des gangs criminels. Human Rights Watch dénonce depuis plus de 200 disparitions forcées et des détentions arbitraires. Côté rwandais, ces discussions rappellent le premier accord migratoire conclu avec le Royaume-Uni. En 2022, Kigali propose à Londres que des demandeurs d'asile et des migrants arrivés illégalement dans le pays soient expulsés vers le Rwanda. La polémique enfle, la Cour européenne des droits de l'homme intervient et ce n'est qu'après les élections et le changement de majorité au Royaume-Uni que le projet est finalement abandonné. Ces négociations entre le Rwanda et les États-Unis vont donc dans le sens de leur politique migratoire. Reste à voir si ces discussions auront une influence sur d'autres négociations, celles que mènent Washington, Kigali et Kinshasa pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de la RDC.
Oui, Lydialo, cette médiation américaine entre Kigali et Kinshasa, elle n'est pas totalement désintéressée. Donald Trump compte bien tirer profit, par exemple, des minerais congolais. Une offre a été formulée en ce sens par la RDC et l'hypothèse d'un accord migratoire avec le Rwanda ressemble à une contre-proposition, selon Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
Tout le monde se met au style politique de Trump et a compris qu'il faut lui proposer des deals. Donc, le gouvernement de Tshisekedi lui avait proposé un deal qui consistait à lui donner accès à son domaine minier, à son secteur minier. Et donc, le Kigali réplique en quelque sorte en lui donnant lui la possibilité d'expulser des migrants sur son territoire. Et donc, on voit qu'il y a des offres concurrentes de la part de Kinshasa et de Kigali en direction de l'administration Trump.
Mais comment les États-Unis de Donald Trump considèrent-elles le Rwanda? Quel regard Washington porte sur Kigali, selon vous?
Washington veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Ce qui est très intéressant, c'est que en effet, au début, l'administration Trump est restée sur la ligne de l'administration Biden, c'est-à-dire en désignant le Rwanda comme l'agresseur et en imposant de nouvelles sanctions. Et donc là, il y avait une continuité. Mais Donald Trump, qui a l'intention d'avoir une victoire diplomatique sur la scène internationale, qui n'a pas en Ukraine, qui n'a pas évidemment sur Gaza, voit avec le conflit RDC-Rwanda une opportunité pour avoir un accord de paix et pour se présenter encore comme le champion du monde, si je puis dire. Et comme il n'y arrive pas sur les autres conflits où il avait dit qu'en Ukraine, ça serait réglé sitôt qu'il serait arrivé au pouvoir, il s'est saisi de ce conflit et donc c'est pour ça que Washington est maintenant à la manœuvre et essaye de négocier un accord entre la RDC et le Rwanda.
Les États-Unis ne se cachent pas d'être intéressés par les minerais stratégiques de la région, mais ces minerais, ils sont massivement en RDC, pas au Rwanda. Quel rôle le Rwanda joue, selon Washington, dans cette chaîne d'exploitation et d'exportation?
Pour le moment, il n'y a rien de très clair, mais disons que les rumeurs laissent entendre que les minerais seraient extraits dans les Kivu, mais seraient raffinés au Rwanda. Dans le cadre d'un accord entre Washington, Kigali et la RDC. On créerait cette chaîne commerciale où chacun aurait un rôle à jouer et donc en retirerait des bénéfices, le pays d'extraction et le Rwanda qui deviendrait le pays de raffinage. Donc c'est à peu près les contours du deal qui semble être en discussion sur le secteur minier dans la zone des Grands Lacs.
Le chercheur Thierry Vircoulon, interrogé par Nicolas Sûr. Trois soldats rwandais ont été tués ce week-end dans une embuscade au nord du Mozambique, selon l'armée rwandaise. L'attaque a eu lieu dans la province du Cabo Delgado, où fourmillent des groupes djihadistes. Six militaires ont aussi été blessés. Il avait menacé de prendre les armes pour renverser le régime centrafricain l'an dernier. Le chef rebelle et ancien ministre Armel Sayo a été extradé hier vers Bangui, près de 4 mois après son arrestation au Cameroun et après de longues procédures diplomatiques et judiciaires. RFI a obtenu les confirmations des deux pays. Esdras Dikoumana revient sur ce retour en Centrafrique.
Comme on peut le constater sur une vidéo diffusée par la chaîne russe RT, la seule à avoir couvert son arrivée à l'aéroport de Bangui, on voit Armel Sayo, t-shirt jaune et un sac sur le dos, sortir d'un avion menotté au poignet en souriant. L'ancien ministre centrafricain a ensuite été acheminé à la direction générale de la police où il a été auditionné avant d'être envoyé à la prison militaire de haute sécurité du camp de Rou dans le centre-ville de Bangui où il est détenu selon nos sources. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international après avoir lancé l'année passée un groupe rebelle et menacé de renverser le régime actuel, Armel Sayo avait été arrêté en janvier à l'aéroport de Douala alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la France. Son extradition a pris du temps parce qu'il voyageait avec un passeport français et le Cameroun exigeait l'accord de Paris avant de l'extrader vers notre pays, nous a expliqué le ministre et conseiller à la présidence de la Centrafrique Fidel Guandjika. Yaoundé n'a pas confirmé jusqu'ici. Accusé de tentative de coup d'État et de menace de déstabilisation, le chef rebelle risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Un de ses frères et une de ses sœurs ont été arrêtés dans la foulée en janvier, ainsi qu'une dizaine de personnes considérées comme proches de l'ancien ministre.
Esdras Dikoumana. Et puis c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur un terrain de foot en Europe. L'Inter Milan reçoit le FC Barcelone ce soir pour la première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Alors forcément, les observateurs s'attendent à un immense spectacle avec ce match nul 3 partout la semaine dernière à l'aller en Catalogne. Et même s'ils se déplacent, les hommes d'Hansi Flick pourront compter sur leur joyau Lamine Yamal, un phénomène qui marque déjà sa génération, Cédric De Oliveira.
À lui seul, il a fait basculer ce premier round face à l'Inter Milan. Son Barça a été mené 2-0 et Lamine Yamal s'est alors mis en action. Un slalom puis une frappe dans la lucarne, action déjà mémorable dans la carrière de ce gamin de 17 ans que son entraîneur Hansi Flick veut voir encore progresser.
Je pense qu'il sait ce que j'attends de lui. Quand vous avez ce niveau, vous devez constamment le montrer. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Ce qu'il fait à 17 ans est incroyable, mais il doit aussi travailler dur pour devenir encore plus performant. Ce n'est que le début, je pense.
It's not the end, I think.
Pas encore majeur, Yamal a déjà remporté l'Euro avec l'Espagne l'été dernier et il veut plus. Au match aller, le bambin et son appareil dentaire ont terrorisé la défense interiste. À Milan, l'entraîneur Simone Inzaghi sait donc que son équipe va souffrir.
Il est clair que c'est très difficile de stopper Yamal. C'est un grand talent. Il est tellement dangereux pour son âge dès qu'il a le ballon. Ce qui est le plus impressionnant chez lui, c'est sa rapidité d'esprit. Avant de recevoir le ballon, en un dixième de seconde, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il fera bien sûr l'objet d'une surveillance particulière.
Ça ne suffira peut-être pas pour contenir l'Espagnol, déjà le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. S'il est encore décisif face à Milan, il pourra aussi devenir un candidat sérieux au Ballon d'Or.
Cédric De Oliveira, Inter Milan, FC Barcelone, coup d'envoi dans un quart d'heure, 19h TU. L'autre demi-finale retour, ce sera ce mercredi, Paris Saint-Germain, Arsenal, et ça sera à vivre en direct et en intégralité sur RFI. Il est 18h46 à Paris, les principaux titres de l'actu avec Romain Ouzoui.
Et avec un cessez-le-feu conclu entre les rebelles houthis du Yémen et les États-Unis, c'est le ministre omanais des Affaires étrangères qui l'annonce, Oman qui chapeaute les discussions entre les deux parties, alors que la journée avait été marquée par de nouveaux bombardements israéliens au Yémen, touchant notamment l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, considérée comme totalement détruit aujourd'hui, ainsi que des centrales électriques qui ont été touchées par les frappes israéliennes. Le président américain Donald Trump affirme que les houthis ont capitulé. Il est le nouvel homme fort de l'Allemagne, c'était attendu, mais Friedrich Merz a eu besoin de 2 tours ce mardi pour être élu chancelier. Ça, ce n'était pas attendu, c'est inédit dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Ça constitue un signe des difficultés qu'il attend au pouvoir, et cela à un moment pourtant charnière pour son pays. Félicitations adressées dans la foulée par le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce soir, Friedrich Merz dit vouloir tout faire pour regagner la confiance des électeurs d'extrême droite, alors que l'AFD constitue aujourd'hui la deuxième force politique du pays. Et puis un mot de football, même si vous l'avez dit, Paul Lancin Spinelli. On va connaître ce soir le premier club qui sera qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. On le rappelle, Inter Milan face au FC Barcelone. Coup d'envoi dans 13 minutes. Et puis demain, PSG contre Arsenal. Ce sera l'autre demi-finale. Ce sera à suivre sur RFI. Allez, suite de cette première édition d'Afrique Soir, Paul, on part au Soudan à présent.
Oui, où la capitale provisoire découvre la violence de la guerre et où la capitale officielle tente de s'en extirper. Nous évoquions dans le journal ces bombardements des FSR sur Port-Soudan, jamais touchés jusqu'à ce week-end par le conflit. Khartoum, pour sa part, a été reprise fin mars par l'armée régulière et depuis, les déplacés rentrent chez eux et découvrent parfois leur maison et le patrimoine de la ville complètement dévasté. C'est le cas notamment du musée de la maison du califat à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum. C'est là où s'est rendu notre envoyé spécial Gaël Lalex.
Au milieu des décombres, Jamal Mohamed Zainal Abdine, directeur de la maison du Khalifa, ouvre les portes du musée. À l'intérieur, des vitrines brisées et quelques instruments de musique anciens.
Dans cette vitrine, il y avait les épées des combattants d'Al-Khalifa. Il y en avait 3 ici et là. Et puis, dans cette vitrine-là, il y avait tous les artefacts religieux. Tout a été volé. Cette partie de la ville était aux mains des forces de soutien rapide et ils ont tout pillé. Quand l'armée a récupéré Khartoum, je suis revenu et j'ai découvert l'emploi l'ampleur du désastre. Ça m'a anéanti. Une tristesse infinie. J'étais responsable de ces objets qui représentent le Soudan. C'est comme si j'avais perdu un enfant.
Abdoulaye Ben Mohamed Al-Khalifa a régné sur le Soudan avant la colonisation britannique. Il est le chef de l'État mahdiste dont les frontières s'étendent jusqu'en Éthiopie. Al-Khalifa meurt en 1899 dans une bataille contre les troupes anglo-égyptiennes. Sa maison est un trésor du passé.
Ce sont des antiquités, des souvenirs de notre passé, et cela nous a demandé beaucoup d'efforts de les retrouver et de les collecter. C'est important pour le pays. On ne peut pas donner une valeur financière à ces objets. Chacun d'entre eux est inestimable. Les FSR ont voulu attaquer l'identité soudanaise. Ces objets pourront sans doute se revendre, mais leur valeur, c'est surtout ce qu'ils représentaient dans le cœur des Soudanais. Maintenant, nous allons créer un comité, évaluer les dégâts et reconstruire la maison du Mahdi.
Oucham Kidir Ahmed Karar est le directeur des antiquités de la ville de Chendi, au nord de Khartoum. Il prête main forte pour l'inventaire des dégâts.
Il est difficile d'évaluer combien on a perdu. Pour le moment, on collecte ce qu'il nous reste et on comparera avec ce que nous avions. Une fois qu'on aura identifié avec précision les objets perdus, nous prendrons contact avec toutes les organisations à travers le monde, ainsi que les pays avec qui nous entretenons de bonnes relations, pour qu'ils nous aident à récupérer nos antiquités. Personne ne pourra nous empêcher de défendre notre identité. Maintenant, on a appris de nos erreurs et la prochaine fois, on se battra.
Le musée national de Khartoum a également été pillé. Les autorités soudanaises entendent solliciter l'UNESCO et Interpol pour empêcher le trafic d'antiquités. Gaëlle Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous. Il est en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est au travail, mais il est quand même bien chanceux. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Bonsoir Paul, et ravi d'être avec vous depuis Babi.
Dans quelques secondes, vous allez nous dévoiler votre sélection du jour. Mais d'abord, un mot sur votre participation au Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire, qui se tiendra les 7 et 8 mai au Musée des Civilisations d'Abidjan.
Oui, en effet, Paul, je suis invité à la 3e édition du SAMSI, organisée par DJ School Abidjan, qui est la première école de formation au métier de l'animation musicale et scénique en Afrique francophone, avec une certification reconnue par l'État et donc un statut officiel, une initiative portée par Donald Kwame, alias Donald J. Et j'animerai un échange sur le rôle des DJ à l'heure de l'émergence des plateformes numériques. Ce sera ce jeudi 8 mai.
Et nos auditeurs attendent avec impatience vos retours d'expérience qui s'annoncent fort enrichissant. Allez, place à la musique, Hervé. Et ce sont les artistes togolais Centrinos Raphaël et Paki Shenzou qui ouvrent le bal.
Oui, vous ne pouvez pas si bien dire, car c'est avec la chanson Minuit que Centrinos Raphaël et Paki Shenzou ouvrent le bal, deux figures de la scène ouest-africaine, sur cette collaboration inédite, coproduite par Bellifornia Records et Melo Records. Le R&B de Centrinos répond harmonieusement à l'énergie drill de Paki Shenzou.
Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bambola. DJ me laissait vite, vite, c'est que au néné. Oui, quand tu le mets en repeat, c'est le oulala. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bambola. DJ me laissait vite, vite, c'est que au néné là. Et quand tu le mets en repeat, c'est le oulala.
L'Amérique s'est mis la dégager. Devant ton clan, je sens mes gadgets. Elle me follow, puis j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler.
On enchaîne, Hervé, avec la Sénégalaise OMG qui fait son retour.
Oui, la rappeuse Oumi Gay, alias OMG, qui marque son retour avec le single Kilometa, une chanson mbalar urbain dont les paroles en wolof évoquent la distance émotionnelle dans une relation amoureuse symbolisée par des kilomètres parcourus sans jamais atteindre l'être aimé. Le refrain répétitif renforce cette idée de séparation persistante. Ce que vous allez surtout retenir, c'est Kilometa.
Like when you bang into baby, I'm gonna need my baby. You may be the one on your giant echo. But I don't do that in my giant echo. Mean the fun you talk when you buy into no. Then your money talk when you buy into my.
Et après OMG et le Sénégal, direction le Gabon avec la chanteuse Emma qui raconte, elle, une peine de cœur dans sa nouvelle chanson.
Oui, dans le jargon, on dit qu'elle vit un goumin. Emma en est devenue spécialiste d'ailleurs à seulement 22 ans. La douce voix du R&B afro a dévoilé Ça m'a laissé, toujours sous la houlette de Sony Music Africa, et la chanson s'est tout de suite imposée grâce à son flot d'émotions confuses, car Emma évoque la douleur d'une femme amoureuse qui vit une énième rupture alors qu'elle ne souhaitait pas tourner la page. Attention spoiler, la mélodie reste en tête.
C'était mon ex préféré. Quand je l'ai vu heureux, j'ai voulu reprendre ma chose. Je faisais celle qui maîtrise. Je croyais pouvoir revenir dans sa vie quand je voulais. Je me suis trompée. Je crois qu'il a fait son choix. Je l'aimais encore quand je suis retournée. Il a fait son choix. Il m'a dit d'arrêter de l'appeler.
Vous aviez raison, mélodie diablement entêtante de la chanteuse gabonaise Emma, DJ Facemaker. Votre sélection certifiée Afro Club, elle se termine ce soir sur une note humoristique au Kenya avec le groupe Matata.
Oui, Matata qui s'est associé à Bien-Aimé Baraza, membre émérite du groupe Sauti Soul. Ensemble, ils chantent Mpichi, leur nouveau titre qui signifie cuisinier en Swahili. Et leur style de prédilection, ça reste le Djengeton qui ressemble au dancehall jamaïcain. Le refrain accrocheur, aïe aïe aïe, et le rythme entraînant a rapidement propulsé le morceau au sommet des tendances sur les plateformes d'écoute en ligne. Recommandation spéciale.
Leo sapa tunakuladi Mpichi. Tushibe, mwiko refu tunafungadi mshipi. Bora tupike, kamba ya buto unaweza kongewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi, bora shaolewa. Busy but niko easy ganji kitolewa.
Baby don't touch me there. Mikono weka juu in the air. Ami say touch me there. Sugar down low, find me there.
Et c'est donc avec Matata que nous refermons les portes de l'Afro Club de ce mardi en direct d'Abidjan avec vous, Hervé Mandina alias DJ Facemaker. Votre sélection, elle est disponible sur notre application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet RFI.fr. Moi, je vous retrouve ce jeudi 8 mai avec la très attendue séquence rétro dans cette sélection. Et je laisse nos auditeurs avec vous, Paul Lancin Spinelli, maître de l'information africaine ce soir, accompagné d'Olivier Roux à la réalisation. Et je salue également Romain Ozui.
Eh ben merci, merci beaucoup à vous.
Merci DJ Facemaker pour cet Afro Club en direct d'Abidjan. Romain Ozoui, je vais vous repasser la main d'ici quelques secondes. On remercie juste Alexis Guilleux qui était à la rédaction en chef. Il était assisté de Guillaume Bédrane. Le programme de la soirée,
ils nous écoutent tous les deux. Bah, le programme de la soirée, ce sera dans 3 minutes le journal de 19h temps universel d'Adrien Delgrange. Et puis ce soir c'est Mardi Politique sur RFI. Valérie Boyer invitée, la vice-présidente du Parti Les Républicains, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Elle répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Et puis après vous reviendrez pour la deuxième édition d'Afrique Soir. Exactement. Pour l'ensemble Spinelli, ça sera dans une demi-heure. Et puis dans 40 minutes le grand reportage qui ce soir va nous emmener au Brésil à la découverte d'une prison pour mineurs qui fait figure d'exception, qui est bien loin de ce qui se fait ailleurs dans le pays. Donc voilà, la session d'info soirée, elle se poursuit pendant encore une heure sur Radio France Internationale. Ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants.
Du 14 au 24 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 57e édition. La quinzaine, c'est une sélection de 30 films du monde entier ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Au programme, projection de courts et longs métrages, le choix du public et une carte blanche spéciale comédie avec Alain Chabat en invité spécial. La quinzaine des cinéastes du 14 au 24 mai. Plus d'informations sur quinzaine-cinéaste.fr en partenariat avec RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Comment vivre avec des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs.
Jeudi.
Prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine.
demain.
80 ans après la Seconde Guerre mondiale, qu'en reste-t-il dans l'enseignement, dans les lycées en Afrique ?
Jeudi.
Reportage au Tchad pour lever le tabou du viol et faire entendre la voix des femmes.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Nous sommes tous de quelque part, d'un imaginaire fait de paysages et de légendes. La France par ses contes est la nouvelle collection imaginée par Denis Gombert. Et tout commence avec la Loire, en compagnie d'Agnès Michaud, le long du fleuve, pour croiser quelques fées, un ogre, il faut bien ça, et de joyeux villageois.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.